VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité à VOA Afrique. Dans quelques minutes, nous aurons le magazine de l'économie préparé et présenté par Camille Gros-Didier. Mais juste avant, les dernières nouvelles du monde. Au Burundi, c'est toujours la mobilisation contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Un sommet régional se tient demain à Dar es Salaam pour tenter de trouver une sortie de crise. On écoute Idriss Fall.
Un manifestant a été tué par balle aujourd'hui dans le quartier Buterere, près de l'aéroport de Bujumbura. Deux autres personnes sont mortes cette nuit suite à l'explosion d'une grenade dans une maison de Kanyosha. Ce quartier a souvent été le théâtre d'affrontements avec les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. La crise a déjà fait au moins 20 morts. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se réunissent demain à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de trouver une solution. Linda Greenfield Thomas, la dame Afrique du département d'État américain, va participer à ce sommet. Washington est contre la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'Union européenne a suspendu son soutien financier au processus électoral et demande un report des élections. Mais le président burundais a lancé hier la campagne du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en vue des législatives du 26 mai qui seront suivies un mois après par l'élection présidentielle.
République centrafricaine, plusieurs centaines de personnes, dont certaines en tenue militaire, ont érigé les barricades à Bangui, la capitale. D'après l'AFP, les protestataires dénonçaient les décisions du Forum de réconciliation de Bangui et exigeaient le départ de la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza. Nouveau massacre à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit malgré l'opération Ville morte illimitée lancée par la société civile contre l'insécurité dans la région. Eddie Isango.
Les habitants de Beni ont manifesté mardi matin pour protester contre ce nouveau massacre, interrompant brièvement la ville morte illimitée. La police a tiré en l'air pour disperser les protestataires, selon un témoin contacté par VOA Afrique. Les 6 victimes ont été abattues à Kalongo, un quartier situé près de l'aéroport de Mavivi, par un groupe d'hommes en uniforme militaire armé de machettes et autres armes blanches. L'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda, a attribué l'attaque aux ADF. Selon lui, l'armée est intervenue lundi soir et a pourchassé les assaillants qui sont rentrés dans la forêt. La société civile dénonce l'insuffisance d'action contre les massacres répétés dans la région de Beni. Selon Kizito Hang de l'ONG Asado à Beni, la société civile exige un changement du commandement de l'offensive de l'armée à Beni. La mission des Nations Unies au Congo avait aussi formulé presque les mêmes exigences, accusant les officiers à la tête de l'offensive de l'armée congolaise dans la région de graves crimes. Le gouvernement n'a pas cédé et depuis, l'armée congolaise mène seule l'offensive contre les groupes armés.
Au Burkina Faso, les partis politiques sankaristes entendent désigner un candidat unique à l'élection présidentielle d'octobre. Ces formations défendent les idéaux du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État. Ils sont en plein préparatif d'une convention d'union qui va regrouper 9 partis, a fait savoir Nestor Bassière, vice-président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Crise au Mali, réunis à Alger, les ministres français et algériens des Affaires étrangères, Laurent Fabius et Ramtane Lamamra, appellent toutes les parties à signer vendredi à Bamako l'accord d'Alger. C'est ce que rapporte l'AFP. Ce texte a été paraphé le 1er mars dans la capitale algérienne par le camp gouvernemental, mais non par la rébellion. Malgré les violations répétées du cessez-le-feu au Mali depuis 2 semaines, la communauté internationale tente d'arracher la signature d'une partie, au moins, de la rébellion à dominante Touareg. Notons également que le président français François Hollande envisage de se rendre prochainement en Algérie, a déclaré aujourd'hui à Alger le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'épidémie de méningite au Niger, le bilan s'élève déjà à 358 morts sur 5273 cas suspects recensés depuis janvier. L'organisation Médecins sans frontières dit avoir renforcé ses activités avec près de 430 lits pour assurer la prise en charge médicale gratuite des malades. La capitale Niamey est particulièrement affectée, avec près de 1200 admissions la semaine dernière, relève Médecins sans frontières. Le Niger a voté une loi contre les trafiquants de migrants africains illégaux vers l'Europe. D'après l'AFP, le texte prévoit des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme.
VOA Afrique en direct de Washington.
Un nouveau séisme a secoué le Népal, déjà dévasté il y a 2 semaines par un tremblement de terre. Ce séisme a tué au moins 48 personnes, au Népal même, selon les autorités, et 17 autres dans le nord de l'Inde. Nicolas Pinault.
Il était 12h30, heure locale, quand la terre s'est mise à trembler à nouveau à 76 km à l'est de Katmandou. Selon l'Institut américain de géophysique, le séisme était d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti à New Delhi en Inde et provoqué l'effondrement de bâtiments au Tibet. L'aéroport de Katmandou, porte d'entrée principale de l'aide internationale, a rouvert après avoir été fermé quelques heures par précaution. Même si cette dernière secousse ne semble pas aussi grave que celle du 25 avril, les habitants de la capitale népalaise ont été pris de panique à l'idée que ces nouveaux séismes entraîneraient l'effondrement de bâtiments déjà très endommagés. La police népalaise a exhorté la population à rester à l'extérieur et à éviter d'encombrer le réseau mobile. Je vous rappelle que le séisme du 25 avril a tué au moins 8000 personnes au Népal et une centaine en Inde et en Chine. Des dizaines de milliers de Népalais sont aujourd'hui sans abri.
Rencontre aujourd'hui entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président russe Vladimir Poutine dans la cité balnéaire de Sotchi. C'est la première visite du chef de la diplomatie américaine en Russie depuis que les relations se sont détériorées entre Washington et Moscou pour de sérieux désaccords sur l'Ukraine et la Syrie. Félix Yepassi-Zembro.
Avant de rencontrer Poutine, John Kerry a eu des entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pendant plus de 4 heures. C'est la première rencontre au plus haut niveau entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la crise en Ukraine à la fin de 2013. Le département d'État américain a précisé que le chef de la diplomatie américaine et le président Poutine discuteraient d'une gamme complète de questions bilatérales et régionales, dont l'accord nucléaire avec l'Iran, le Yémen et la Libye dans le cadre d'un effort continu pour s'assurer que les vues des États-Unis soient clairement transmises. Kerry pourrait avoir testé la volonté de M. Poutine de faire respecter par les séparatistes pro-russes en Ukraine l'accord de cessez-le-feu fragile et prendre le pouls de l'étendue du soutien de la Russie au président syrien Bachar al-Assad, dont les forces ont subi récemment des défaites après un peu plus de 4 ans de guerre civile. Les États-Unis veulent une transition politique pour mettre fin à 45 ans de règne familiale à Damas. Le voyage de Kerry intervient à un moment où les relations entre Washington et Moscou ont chuté à des niveaux équivalents à ceux d'après la guerre froide, sur fond de désaccords au sujet de l'Ukraine et de la Syrie. Cette mission semblait conçue, selon toute vraisemblance, pour maintenir le contact que toute autre chose.
La visite en Russie du secrétaire d'État John Kerry coïncide avec la publication d'un rapport faisant état d'au moins 220 soldats russes morts durant les combats en Ukraine au cours des 12 derniers mois. Selon ce document de 64 pages, préparé par l'opposant Boris Nemtsov avant son assassinat, l'armée russe avait contraint ses soldats à résilier leur contrat avant de les envoyer en Ukraine comme volontaires. Le ministère de la Défense, dit Nemtsov, avait promis de dédommager les familles des militaires tués ou blessés, mais ne l'a pas fait. Les autorités russes ont toujours nié tout appui aux séparatistes de l'Est ukrainien et le Kremlin s'est aujourd'hui refusé à tout commentaire sur ce rapport. Au Yémen, un cessez-le-feu qui devrait faciliter la livraison d'aide humanitaire pendant les 5 prochains jours doit entrer en vigueur ce soir. Les raids de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont continué jusqu'à fort tard dans la nuit d'hier. Et à la suite de ces bombardements massifs, un secteur de la capitale Sanaa, classé au patrimoine mondial de l'humanité, aurait été gravement endommagé selon l'UNESCO. Le président irakien Fouad Massoum est arrivé ce mardi à Téhéran pour une visite officielle de 2 jours en Iran. Les discussions devaient porter, entre autres, sur la lutte contre le groupe extrémiste sunnite État islamique et la coopération économique entre Téhéran et Bagdad. Le président français François Hollande a réaffirmé l'engagement de la France à aider Haïti, mais il n'a pas répondu aux attentes de ceux qui réclament le remboursement de la dette de l'indépendance du pays. M. Hollande a été accueilli aujourd'hui à Port-au-Prince par son homologue haïtien Michel Martelly après une visite historique à Cuba. De son côté, le président Martelly a déclaré qu'aucun marchandage, aucune compensation ne peut retaper les accros de l'histoire qui nous marquent si profondément encore aujourd'hui. Haïti n'a pas oublié, mais elle n'est pas non plus obstinée, a dit Michel Martelly. Restez à l'écoute de VOA Afrique, le magazine économique, dans quelques instants, ici chez Ruben Orsil.
Soyez au cœur de l'info. Sur